reçoit ce soir le professeur Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce soir, professeur Pialou. On a bien besoin de votre éclairage parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas tout. On a des chiffres, mais on a besoin de vous pour que vous nous aidiez à les analyser. Alors, pour résumer, on voit quand même l'épidémie se stabiliser et même régresser. 10% de cas en moins sur une semaine avec une moyenne de 18 000 cas jour. Un R0 à 0,97. Un taux de positivité des tests en baisse à 5,8%. Et dans le même temps, il y a aussi ces variants qui inquiètent beaucoup. On va y revenir. D'abord, comment expliquez-vous cette baisse? Est-ce que c'est le couvre-feu à 18h qui montre son efficacité, Gilles Pialou?
Bon, c'est vrai qu'on n'explique pas tout, notamment parce qu'on s'attendait, et on l'a écrit et dit, qu'on s'attendait quand même à un choc, là, mi-février. Il faut quand même rappeler, malheureusement, qu'on est quand même dans un positionnement, un très haut plateau, avec quand même un taux de réanimation, de remplissage de réanimation qui est au-delà de 60%, autour de 65%. Donc, et comme vous le dites, c'est une légère décrue sur un plateau très élevé, qui a eu une phase ascensionnelle. Donc l'explication, effectivement, elle probablement que ce couvre-feu qui est suivi, parce que c'est pas seulement la mesure 18h, c'est que vous avez vu que c'est une mesure coercitive, et on a très bien vu au moment où était annoncé, je dirais, le resserrement un peu de l'étau sur les gens qui ne l'appliquaient pas, qu'il devenait très clairement appliqué. Donc c'est probablement un effet sur lequel les politiques jouent, entre guillemets, pour éviter un reconfinement que nous, sur le plan sanitaire, on pensait inexorable. Alors l'autre question, et qui est une énigme, mais ça on peut en parler, c'est effectivement les variants,
oui,
et surtout le variant anglais qui est en train de prendre place, et il sera probablement, alors lui là je vois pas comment ça peut s'arrêter, il sera majoritaire dans les semaines qui viennent.
C'est ça, on dit qu'il sera majoritaire début mars en France.
Oui, on a fait le point, nous, sur notre gros groupe hospitalier, et on est probablement autour de beaucoup plus qu'en national, parce que vous avez vu qu'il y a des disparités. L'enquête Flash, là, qui a été faite par Santé publique France, montre qu'il y a des disparités assez étonnantes. Donc, par exemple, il y a un taux élevé en Bretagne, alors que le virus circule pas, en proportion, hein, alors que le virus circule pas énormément. Mais c'est vrai qu'il y a des régions comme les Hauts-de-France, le Grand Est, qui sont tout à fait touchées par ces variants. Je parle surtout du variant anglais, oui, et on est encore plus préoccupés pour les raisons que vous avez annoncées dans votre sujet, par rapport à la réponse vaccinale pour ces variants sud-africains ou brésiliens.
Mais alors pourquoi ne voit-on pas...
Qui sont très minoritaires.
Qui sont minoritaires, oui, il faut le rappeler. Pourquoi ne voit-on pas déjà des explosions de contamination alors que ce variant augmente de 50% par semaine? C'est énorme. Et pour rappel, il est, je crois, entre 40 et 60% plus contagieux, hein.
Alors, il y a plusieurs hypothèses. L'une des hypothèses, c'est que les Français entendent les messages et que ce variant a, disons, augmenté un peu le niveau de mesures barrières. C'est la première hypothèse. La deuxième, qui a été montrée par les Anglais et qui donne... aujourd'hui, c'est mon jour d'optimisme, mais les Anglais ont montré quand même que globalement, un confinement certes beaucoup plus serré que ce qu'on a actuellement avait un impact sur la circulation de virus. Et la troisième hypothèse, c'est que ces chiffres de 50-70%, il y a sûrement une augmentation de la transmissibilité, peut-être qu'ils ont été vus un peu trop à la hausse. C'est les trois hypothèses, et la quatrième hypothèse, c'est que c'est juste un effet temps, et parce que quand on a vu comment ce qui s'est passé en Afrique du Sud et la vitesse avec laquelle ils ont été envahis, comme dans le sud de l'Angleterre, on est extrêmement prudent et humble sur ces variants.
Alors quand on prend l'exemple de la Moselle, par exemple, où le variant sud-africain, plus contagieux de 30 à 60% que la souche classique, représente 40% des dépistages. Et pourtant, en Moselle, le taux de positivité des tests n'explose pas, il est de 7%. Comment on explique ça?
Parce que la politique de dépistage en France, elle dépend précisément plus du politique que des individus, c'est-à-dire la disponibilité des tests. Il faut expliquer aux Français que on sait maintenant exactement faire le tri, et d'ailleurs même pour ce qui est du variant anglais, on n'a pas besoin de faire tout le génome, on a des tests PCR qui sont spécifiques et qui permettent très facilement sur un seul prélèvement, toujours au fond du nez, hein, de savoir quel est le variant. Donc là, c'est pas un problème technique, c'est un problème d'offre de dépistage, et évidemment ça fait partie des propositions qu'on a à faire si on doit vivre avec, parce que c'est le sujet actuellement, vivre avec versus se débarrasser comme l'ont fait certains pays, c'est-à-dire Covid zéro. Et si on vit avec, il faut augmenter complètement la puissance de feu du dépistage et dans son sillage de l'isolement. Je crois que c'est un projet qui a été souvent annoncé, mais qui n'est pas encore dans la pratique. Et il faut regretter que ce taux de dépistage n'augmente pas en France alors qu'on a des variants.
Donc il faut augmenter les dépistages. Est-ce que vous comprenez la volonté du gouvernement de ne pas prendre de mesures de restriction plus fortes en Moselle et à Dunkerque, notamment de ne pas fermer les écoles alors que les élus le souhaitaient et alors qu'on est à une semaine des vacances?
Je pense que c'est des décisions purement politiques. Comme vous le savez, il y a un débat sur le poids du scientifique, notamment du conseil scientifique, qui a eu des positions quand même très claires sur l'utilisation de cet outil qu'est le confinement. Mais quand on dit le confinement, ça, il y a plusieurs façons. Là, on est là précisément. Vous faites appel à une notion qu'on a évoquée très tôt, qui était le confinement soit en population, soit le confinement régional. Alors après, c'est une décision politique locale, et vous avez bien vu que pour ce qui est de la Moselle, il y a des prises de position qui sont un peu différentes entre le pouvoir central, le pouvoir local, et à l'intérieur du pouvoir local, les scientifiques, l'ARS, le préfet, qui peuvent avoir des positions différentes. Moi, je ne sais pas quelle est la solution pour la Moselle, mais je ne peux pas imaginer que la problématique de la Moselle reste en Moselle.
Bon, on parlait dans le journal de 18h de cette nouvelle enquête de l'INSERM et de Santé publique France qui dit que si nous ne changeons rien dans les mesures de restriction, les admissions à l'hôpital passeraient d'environ 10 000 par semaine à près de 15 000 autour du 7 mars et puis à plus de 25 000 dans la dernière semaine de mars, c'est-à-dire davantage qu'au pic de la deuxième vague. En gros, tout ce qu'on voulait éviter.
Oui, c'est vrai qu'on a dit au début que les modélisations se trompaient, mais elles se sont trompées de moins en moins. Et plus le temps passe, plus les modélisations sont proches de la réalité. Donc c'est à prendre effectivement avec attention et avec des moyens qui sont celui qu'on est en train de développer dans les hôpitaux. Hein. Et vous avez vu qu'il y a des notes de la Direction Générale de la Santé. Nous, on a des notes à d'autres niveaux, de déprogrammation notamment, qui permet de récupérer du personnel pour équiper la réanimation. Parce que dans les chiffres que vous avez évoqués, il y a un chiffre qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est que ça ne baisse pas en réanimation. Ça ne baisse pas en réanimation. Alors là aussi, c'est peut-être un effet temps, mais on est toujours dans un solde, comme on dit, positif. C'est-à-dire qu'il y a plus d'entrées en réanimation, en tout cas en Île-de-France, que de sorties. Donc là aussi, on a une prudence, puisqu'on sait très bien que c'est par la réanimation que l'étranglement, que le syndrome qu'on avait vu dans l'Italie du Nord, et puis aussi un peu en Espagne pour la première vague, nous guette. Je crois qu'il y a un débat de société. Hein. On est sorti de la science. Hein. Est-ce que on est en train de passer tout doucement, sans qu'on nous le dise, à vivre avec? C'est-à-dire que on accepte qu'il y ait des décès, certes chez des personnes qui ont plus de 75 ans, mais c'est un vrai sujet. Je pense que, pour ma part, je pense que ça devrait être un débat au moins de citoyens ou de la représentation nationale, de savoir si, dans l'attente de l'effet vaccinal, oui, qui est très lent, on a une acceptation comme ça d'un taux d'hospitalisation important, d'un taux de patients en réanimation et des décès de personnes qui ont, contrairement à ce qui se dit par certains experts, encore des années à vivre. Et je pense que on est vraiment dans un débat de société.
Justement, à propos de la campagne vaccinale, vous l'évoquiez, l'INSERM dit que nous n'allons pas en voir les effets sur les courbes de contamination avant avril.
Oui, c'est ce qui a été dit aussi par les membres du conseil scientifique. Oui, parce que il faut comprendre qu'on est dans certains. Alors même si on a une certaine réussite dans les EHPAD qui ont été priorisés par la Haute Autorité de Santé, alors que les soignants ne l'ont pas été, mais on est avec des chiffres de couverture vaccinale dans des populations où le virus circule et les soignants font partie. Ça a été montré notamment par l'étude de l'Institut Pasteur. C'est un facteur de risque d'être soignant parce que. Pas seulement d'ailleurs par le contact avec les malades, c'est aussi par les transports, la vie sociale qu'on peut avoir les différents soignants. Et quand on regarde la couverture vaccinale des professionnels de santé, on est autour de 27% en dehors des EHPAD et à 16% dans les EHPAD. Donc tout ça va mettre du temps. Et comme vous le savez, c'est la rencontre entre une immunité qui a été induite par l'infection et celle de la vaccination. Et dès que ça couvrira au moins 60% d'une population, on commencera à en voir les effets. Et effectivement, je crois qu'on c'est difficile de prévoir avant avril, voire mai, compte tenu de la lenteur du processus d'implémentation de la vaccination.
Bien, merci beaucoup Gilles Pialoux pour votre éclairage. Chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris, merci d'avoir été en direct avec nous ce soir sur Europe.